Chapitre 7. Avant de rentrer, Nicolas regarda encore la façade Knox Hotel. La fenêtre de Madame Aftalion, cette fois, était éclairée. Sans qu'il pût s'expliquer pourquoi, il eut l'impression que sa mère avait échoué. Elle l'attendait, couchée sur son lit. La pièce était en désordre. Elle avait jeté son chapeau sur le fauteuil. Ses souliers, encore à ses pieds, étaient délacés. À la vue de son fils, elle eut un sursaut, puis, hochant la tête, laissa entendre qu'elle n'avait pas réussi.
« Non, je ne veux plus me charger de ces corvées. Tu iras un peu emprunter. Tu verras ce que c'est. »«
Pourquoi moi plus que toi ?»«
Je te dis que tu verras ce que c'est. »«
Mais je sais ce que c'est. Je n'ai pas besoin de voir. »«
Tu as oublié. Cela te rafraîchira la mémoire. »
Nicolas regarda sa mère avec dureté. Elle eut un geste de découragement, puis continua.
« Non, j'aime mieux mourir de faim que de revivre une journée comme aujourd'hui. Je n'irai plus, c'est fini. Ces démarches me font trop de mal. Aujourd'hui, Pierre, demain, Paul, et partout la méfiance, partout la froideur. Les gens ne sont pas si bêtes que cela. Ils voient vite de quoi il s'agit. Je te dis que j'aime mieux mourir que de faire une autre démarche. »
Abattu par la vie qu'il menait, souffrant de l'attitude de Louise, Nicolas n'opposait aucune résistance à la colère qui montait en lui.
« C'est toujours moi qui supporte tout, » pensa-t-il. Elle n'avait qu'à pas dépenser comme elle l'a fait. Elle d'abord, les autres après.
Il lui apparaissait qu'à lui seul incombaient les démarches pénibles. Il avait dû supplier tout le monde. Et à présent, il fallait encore que ce fût lui qui courût à gauche et à droite.
« Moi non plus, je ne bougerai pas, » dit-il. « Nous sommes tous les deux dans la même situation. Tu n'as qu'à en faire autant que moi. »
Devant l'indifférence de sa mère, qui, les mains aux oreilles, s'efforçait de ne pas l'entendre, il s'interrompit. Le souvenir de situations où il avait été humilié, où on l'avait tenu à l'écart, attisait sa colère. Il éprouvait une joie forte et amère à se laisser envahir par elle. À mesure qu'elle grandissait, sa détresse fondait. Elle serrait ses poings, tendait son cou. Une puissance qu'il ne connaissait pas coulait en lui. Il sentit alors qu'il dominait de si haut tout ce qui l'entourait qu'un profond bien-être le baigna.
« Et pourquoi n'irais-tu pas, par exemple, chez Rosine ? » fit-il en frappant violemment du poing un bras du fauteuil. « Vous êtes bien ensemble. Pourquoi ce serait moi ? Je cherche du travail, je fais tout ce que je peux, et toi, tu attends. Et le plus fort, c'est que c'est toi qui es responsable de tout. »
« Je ne suis responsable de rien !»«
Je te dis que tu es responsable de tout !»«
Et moi, je te dis que je ne suis responsable de rien !»«
Tu cherches à me provoquer ? J'en ai assez, tu comprends ? Tu t'imagines que parce que tu as été chez ta sœur, tu es quitte. Il n'y a pas que toi qui aies de l'amour propre. Je fais comme toi, je ne bouge pas. On verra bien ce qui arrivera. »
Nicolas s'emportait de plus en plus. Des paroles sans suite jaillirent de sa bouche. Parfois, ces phrases n'avaient aucun sens. Tout ce qu'il disait lui semblait pourtant d'une vérité éclatante. Par moments, l'impression qu'il allait trop loin détournait son attention, mais l'inertie de sa mère lui semblait aussitôt une excuse à sa rage.
« Tu n'aurais qu'à faire un pas et nous serions sauvés. Mais ce pas, tu ne veux pas le faire. Tu te laisserais plutôt tuer sur place que de le faire. Je me demande ce que tu as. » « Tu es folle, ce n'est pas possible autrement. »«
Et toi, tu ne veux pas travailler ?»«
Je ne veux pas travailler ?»«
Non, tu ne veux pas travailler. Si tu le voulais, il y a longtemps que tu aurais une place. Tu ne veux rien faire. Dis-moi ce que tu fais toutes ces après-midi. »«
Trouve-la, la place. »«
On en trouve. »«
Eh bien, trouve-la. »
Ces scènes se renouvelaient de plus en plus fréquemment entre Madame Aftalion et son fils. Parfois, elles atteignaient une violence inouïe. Une lacune d'esprit faisait que Madame Aftalion n'avait pas le sens du respect dû par un fils. Ainsi qu'elle l'avait fait jadis avec son mari, elle discutait avec lui pied à pied. Les grossièretés de langage lui semblaient naturelles, et dans la paix qui suivait les crises, elle les oubliait aussitôt. Nicolas le sentait. Elle lui seulement dit « Tu n'as pas honte de parler ainsi à ta mère ?» qu'il se fût tu immédiatement. Mais comme elle ne lui faisait jamais un reproche, il avait à son égard la même attitude qu'avec un camarade quelconque. Bien qu'il n'y eût plus de limites à ses colères, Madame Aftalion, le lendemain, ne manquait jamais de vanter les prévenances et la tendresse de son fils. Elle éprouvait une sorte de jouissance à masquer une vie intime aussi mouvementée. Le souvenir de ces scènes lui causait de la fierté. On eût dit qu'elle les désirait chaque fois plus violentes.
« Je ne veux pas aller chez Rosine et je n'irai pas !»
dit-elle en se levant à demi et en faisant signe que les voisins pouvaient entendre.
« Je me moque des voisins, tu entends? Et tu iras !»
Il la regarda avec méchanceté. Machinalement, elle copia son expression, puis elle éclata de rire.
« Il me semble que je suis libre de faire ce qu'il me plaît !»
Nicolas, qui ne se contenait plus, n'eut plus qu'une pensée offenser sa mère. Mais tout ce qu'il trouvait lui apparaissait insuffisant.
« Et moi, je te dis que tu iras, que tu iras, que tu iras, que tu feras ce que j'ai fait !»
Il prononça ces mots avec une telle force que Madame Aftalion cessa de rire.
« Je n'ai pas à recevoir des ordres, je n'en ai jamais reçu de personne, ce n'est pas à mon âge que je commencerai !»
Nicolas était au paroxysme de la colère. Il ne put rester assis plus longtemps. Il se leva. Debout, il lui sembla que le plafond pesait sur lui, que les murs étaient d'une épaisseur sans fin, que sa poitrine allait éclater. Sa mère était adossée à l'oreiller. La pensée de lui jeter au visage le premier objet qui lui tomberait sous la main l'effleura. Tout étincelait devant ses yeux. Il fit un pas, puis un deuxième. Une bouteille d'eau de Cologne, dont Madame Aftalion se servait parcimonieusement, se trouvait sur la cheminée. Il la regarda, ainsi que les flacons, les brosses, les cendriers, les vases qui l'entouraient. Soudain, il la saisit et de toutes ses forces la lança à terre. Au milieu de l'odeur qui envahit la pièce, il demeura un instant gêné. Des gouttes avaient sauté sur les murs, sur ses vêtements, sur le lit. Deux alternatives très nettes se présentèrent à lui. Continuer ou sortir. Il chercha le visage de sa mère pour y lire ce qu'il devait faire. Une expression de frayeur la défigurait. Alors, il lui apparut qu'il devait continuer jusqu'à ce qu'il n'y eût plus sur le visage qu'une imploration désespérée. Une étoffe indienne recouvrait la cheminée. D'un mouvement brusque, il la tira par un coin. Tout ce qui se trouvait sur la cheminée tomba à terre avec fracas. Madame Aftalion poussa un cri strident, croisa les bras, puis, quittant le lit, se mit à courir en chemise dans la pièce, hurlant
« Il va me tuer ! Au secours, à moi !»
À cet instant, on frappa violemment à la porte. Alors la mère et le fils se regardèrent comme deux complices surpris. Ils se turent. Des gens parlaient fort sur le palier, de manière à être entendus au travers de la porte.
« Ce sont des étrangers, il faudrait expulser cette vermine !» « Prévenez la police, ce garçon finira mal !»
En entendant ces réflexions, Nicolas retrouva sur le champ son sang-froid. Sa mère avait gagné le lit sur la pointe du pied et s'était recouchée. Il lui fit comprendre par geste qu'il avait agi sans se rendre compte de rien. Lorsque les voisins se furent éloignés, il s'assit au pied du lit et, bourrelé de repentir, murmura
« Pardonne-moi, maman, on est si malheureux, je ne sais plus ce que je fais !» Cette vie nous change complètement. Tu verras, nous aurons de l'argent. Veux-tu que j'aille chez Rosine tout de suite? Veux-tu, maman? Tout ce que tu me diras, je le ferai. Mais je t'en supplie, oublie tout cela. À partir de demain, je serai un autre homme. »
Elle ne répondit pas. De temps en temps, elle hochait la tête avec tristesse, ou bien elle passait une main sur ses cheveux, sur ses paupières, sur ses lèvres, de ce geste qui lui était familier, même dehors, pour effacer les grains de poussière qui eussent pu tacher son visage à son insu. Nicolas se leva, mit les objets cassés dans un journal, ouvrit la fenêtre pour chasser l'odeur de l'eau de Cologne.
« Que tu es bête !» fit Madame Aftalion avec amertume. « Nous n'avons plus rien. Demain, peut-être, nous coucherons dehors. » « Aucun ami, aucun parent, personne ne se tourne vers nous, et toi, tu casses tout, tu casses les seules petites choses qui nous restent, tu fais du scandale. Que c'est bête, que c'est bête !»«
Je chercherai de l'argent, maman, j'en trouverai, il faut que j'en trouve, et j'en trouverai. »
Madame Aftalion regarda son fils.
« Quand je pense que tu n'as aucun sentiment pour moi, aucun, pas le plus petit !»
Tu me traites comme une fille de la rue. Un voyou n'aurait pas fait ce que tu as fait.
Je te dis que je trouverai de l'argent.
Tu verras que cela va mal finir. Demain, le propriétaire nous chassera. Pense donc, on ne le paie pas et on fait du scandale. Mais où irons-nous, mon petit Nicolas? Je te le demande.
Nous louerons deux belles chambres ailleurs.
Il faut de l'argent. Sans cela, personne ne nous prendra.
Tout en parlant, Madame Aftalion se regarda avec attention dans une petite glace.
Que j'ai mauvaise mine! On dirait que je n'ai pas dormi depuis 8 jours. Non, cela ne peut plus durer. Il faut faire quelque chose, n'importe quoi, mais il faut faire quelque chose. Alors, c'est vrai? Tu chercheras de l'argent?
Tout de suite, si tu veux.
Tu es fou! Il est minuit. On ne t'ouvrira même pas. Mais demain matin, va chez Rosine. Demande-lui 5 000 francs. Elle est coquette. Elle sera plus aimable avec un jeune homme qu'avec moi. Et puis, nous parlerons de tout cela demain. Je n'en peux plus. Je suis nerveuse. J'ai besoin de me reposer. Toi aussi, couche-toi.
Le lendemain matin, comme Nicolas sortait pour se rendre chez Rosine, le propriétaire de l'hôtel l'interpella.
Un petit mot, monsieur Aftalion. Est-ce que vous croyez que cela va durer encore longtemps comme cela, dites? Quand on ne paie pas, on a la pudeur de ne pas se faire remarquer. Cela peut suffire maintenant. Vous quitterez l'hôtel, vous et votre mère, dans les 24 heures.
Peu après, Nicolas arriva chez Rosine, dont l'appartement donnait sur un boulevard bruyant. En y pénétrant, on avait l'impression de s'avancer dans une grotte, tellement une foule d'objets, de meubles, ôtait toute régularité à l'agencement des pièces. Rosine avait été très liée avec Madame Perrier, au moment où Louise s'était éprise d'Alexandre. C'était une vieille fille qui n'éprouvait de joie qu'à accumuler dans ses meubles du linge, des vêtements, de la maroquinerie, auxquels elle ne touchait jamais. Pour ses besoins, elle distrayait, par exemple, 2 serviettes, dont elle se servait jusqu'à usure complète, satisfaite pourtant à la pensée que des piles intactes demeuraient dans ses armoires. La vue de Nicolas fit sur elle l'effet contraire à celui escompté par Madame Aftalion. Il ne lui inspira aucune confiance et ce fut derrière des excuses comme celle-ci.
« Je n'ai pas d'argent disponible. Tout ce que je possède est placé. En ce moment, je ne peux réaliser quoi que ce soit. »
Qu'elle se réfugia. À 2 heures de l'après-midi, il se rendit avec sa mère à la petite crèmerie de la rue Fontaine. Le déjeuner achevé, il continua ses démarches. Entre autres, il se rendit chez Charles. Mais celui-ci était parti pour Rouen depuis 3 jours et ne devait rentrer que dans la soirée. Avec l'espoir de le rencontrer, il rôda jusqu'à la nuit dans le quartier de la place Pereire. À minuit, Nicolas n'avait pu encore emprunter une somme, aussi minime fut-elle. Simone avait dû l'attendre au Monaco et il en voulait à sa condition de n'avoir pu la retrouver. Il redoutait le moment de revoir sa mère qui devait le guetter avec anxiété. Désemparé, abattu, il ne savait plus quelle démarche tenter et en même temps il n'osait rentrer au Nox Hotel. Il devinait qu'en son absence, il avait dû se passer des événements. Les malles étaient sans doute faites dans la chambre de sa mère. Demain, il faudrait déménager et il ne possédait rien. La nuit était claire. Des taxis découverts se poursuivaient dans les avenues désertes. Les arbres, dans l'air tiède, émergeaient de partout. Ils dégageaient un parfum champêtre qui adoucissait la détresse de Nicolas et lui donnait comme un besoin de vivre largement, sans souci, très loin de Paris. Autour de la place Clichy, les terrasses des cafés étaient noires de monde. À l'entrée du métro, des vieilles femmes vendaient des journaux du soir. En haut d'une maison, des réflecteurs projetaient une lumière pâle sur une immense affiche. Nicolas ne comptait plus que sur une rencontre. Il regardait chaque passant qu'il croisait avec l'espoir de le connaître. Boulevard Clichy, des automobiles étaient rangées devant un restaurant de nuit. Le portier, vêtu d'une sorte de frac, causait avec les chauffeurs. Nicolas s'arrêta. Un camarade de collège, une femme connue jadis, quelqu'un enfin à qui il avait parlé, allait peut-être sortir du restaurant. Soudain, comme il s'apprêtait à partir, il se trouva face à face avec un homme dont le visage lui était familier. C'était le père de l'infirme qu'il avait rencontré au Monaco il y avait une 15aine de jours. Il était méconnaissable. Malgré la chaleur, il portait un pardessus dont il avait relevé le col comme pour se dissimuler le visage. Il tenait à la main une grosse canne à bout ferré. La fatigue tirait ses traits. Des journaux dépassaient de ses poches. Un lorgnon ébréché voilait ses yeux inquiets. En reconnaissant Nicolas, il poussa un cri, puis, le prenant tout de suite par le bras, l'entraîna vers une ruelle obscure.
« Vous savez ?» balbutia-t-il.
« Quoi ?» fit Nicolas, que l'imprévu de cette rencontre avait distrait de ses soucis.
« Il est reparti. Depuis 8 jours. Personne ne sait où il est. Des voyous ont dû l'entraîner. Mon Dieu, vous l'avez peut-être vu. Vous savez où il est ? Dites-le-moi, je vous en supplie. C'est de ma faute. Je vous jure que jamais plus je ne l'enfermerai. »
M. Simonet tournait autour de Nicolas, avec des yeux suppliants, le tenant par le veston, lui touchant les mains et le visage, ne sachant quoi faire pour l'attendrir.
« Il ne peut pas être bien loin, monsieur. »«
Où allait-il ? Il ne vous a pas dit les milieux qu'il fréquentait ?
Il n'a pas d'argent, il n'a rien. Si je ne le retrouve pas, il va mourir de faim. »
L'anxiété était peinte sur le visage du vieillard. La rue, l'heure tardive, accroissait sa frayeur.
« Voulez-vous que je vous aide à le chercher ?
Mais où chercher ?
Nous irons partout, partout, partout. »
Nicolas reprit vie. La présence à son côté d'un homme qui souffrait le remontait. Il se sentait moins seul. À lui, qui errait depuis des jours désœuvré, il apparut que c'était la Providence qui lui envoyait ce père désespéré. Depuis de longues années déjà, il avait rêvé d'occupations louches, comme de tenir compagnie à des neurasthéniques, de faire des recherches délicates, d'obtenir une place de surveillant dans quelques casinos. Aider un père à chercher son enfant lui semblait une de celles-là. Tout de suite, il voulut s'imposer à son interlocuteur par un esprit méthodique.
« Qu'avez-vous fait jusqu'à présent ? » demanda-t-il.
« J'ai été partout. J'ai prévenu la police. Je me suis rendu chez tous ses amis. Personne ne l'a vu. Je crains un malheur. Il s'est peut-être jeté dans la Seine. »
Toute la nuit, les deux hommes errèrent de cafés en hôtel. Chaque fois, ils refaisaient le même signalement de Raphaël. Toutes les réponses leur furent faites. On l'avait vu. On avait cru le voir. On ne l'avait pas vu. À l'aube, M. Simonet se laissa tomber sur un banc. Cette nuit de veille l'avait complètement épuisé. « Cher monsieur, dit-il, je vais vous quitter. Maintenant, nous ne le retrouverons plus. Vous avez été très bon pour moi. Où est-il ? Où peut-il être ? Je me le demande. Et nous ne pouvons rien faire. Comment savoir où il se trouve ? Comment le rencontrer dans toutes ces rues ?» M. Simonet venait à peine d'achever que Nicolas eut l'impression que tout s'écartait de lui, qu'il restait seul comme avant, au milieu de l'indifférence du monde. Il ne s'expliquait pas que cet homme qui souffrait pût le quitter aussi facilement, alors que lui, en de telles circonstances, se fût accroché à n'importe qui, aussi longtemps que cela eût été possible. En somme, il n'avait été qu'un guide que l'on remerciait une fois inutile.
Vous voulez rentrer ? Fit Nicolas, qui depuis 1 heure déjà projetait de demander de l'argent au vieillard.
Mais il n'osait pas encore le faire, redoutant de paraître profiter de la situation, bien qu'il pensât pourtant que le vieillard, dans sa douleur, ne remarquerait rien.
Oui, je vais rentrer. À quoi bon chercher ? À cette heure-ci, il doit dormir quelque part. Ou je n'en sais rien. »
Devant la solitude dans laquelle il allait se trouver dans 1 ou 2 minutes, Nicolas eut peur. Il se souvint tout à coup de sa mère, de la chambre qu'il fallait laisser avant midi.
« Je ne peux plus reculer. Il faut lui demander, il faut lui demander. Qu'importe ce qu'il pensera. Après, il sera trop tard.
« Monsieur !»
Il s'arrêta. Il eut beau se meurtrir les paumes de ses ongles, il ne put continuer.
« Monsieur, cherchons-le encore. »
Se forçant à sourire, il ajouta
« Cela ne m'étonnerait pas que votre fils fût en compagnie d'une femme à l'hôtel Lyrique. »
Cette parole tira M. Simonet de son engourdissement. Son visage s'éclaira. Il porta un regard suppliant sur Nicolas.
« Vous savez où il est, cet hôtel ?
Fiez-vous à moi.
Et vous croyez qu'il est là ? Mon Dieu, si c'était vrai, est-ce que c'est possible ?
On m'a souvent parlé de cet hôtel. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas songé avant. On peut toujours aller voir. Ce n'est pas loin d'ici. » En cours de route, Nicolas s'imaginait être déjà en possession d'une somme importante. Il réglait les dettes criardes, prenait une autre chambre, achetait des vêtements. Mais il ne parvenait pas à se résoudre à demander de l'argent au père de Raphaël. Les deux hommes approchaient de l'hôtel lyrique. « J'ai encore 200 mètres devant moi, » pensa Nicolas. « Je suis idiot, je n'ai qu'à dire un mot et il me donnera tout ce qu'il possède sur lui et je ne dis pas ce mot. » « Écoutez-moi, monsieur. Est-ce que nous sommes arrivés ?»« Presque. Je voulais vous demander quelque chose. »« C'est bien vrai. Il vous a dit qu'il connaissait cet hôtel ?»« Je vous en supplie, monsieur. Écoutez-moi. »« Qu'est-ce que vous avez tout à coup ? Dites-moi la rue. J'irai tout seul si cela vous ennuie. »« Ce n'est pas cela. Ma mère et moi, nous n'avons plus d'argent. »« Je ne veux pas que vous perdiez votre temps pour moi. » continua M. Simonet en tirant quelques billets de sa poche et en les remettant à Nicolas. « Pardonnez-moi, je ne sais plus ce que je fais. Je suis tellement malheureux qu'il ne m'est pas même venu à l'idée de vous remercier. » En se dissimulant, Nicolas compta les billets. Il y avait 140 francs. La pensée de demander encore de l'argent traversa son esprit. Avant de le faire, il voulut paraître s'intéresser à Raphaël. « D'ailleurs, si on ne le trouve pas là, je connais d'autres endroits dont il m'a parlé. D'ici une heure, vous verrez que nous l'aurons trouvé. »« Vous connaissez d'autres endroits ?» À l'idée que M. Simonet lui donnerait encore de l'argent s'il en demandait, Nicolas ne put se retenir davantage. Sans même répondre à la question du vieillard, il dit « Vous êtes trop gentil, monsieur. Je ne sais comment vous remercier. Si vous saviez dans quelle situation nous sommes, ma mère et moi, « vous ne me refuserez pas encore un peu d'argent. Dans quelques jours, je vous le rendrai. » Le père de Raphaël, qui ne cessait d'épier autour de lui avec l'espoir de voir surgir d'un porche ou d'une ruelle l'ombre difforme de son enfant, tira encore quelques billets de son portefeuille cette fois, sans paraître attaché à cette demande à la moindre importance. Nicolas, comme s'il eût marché aux côtés d'une fée prodigue, ne songeait plus à rien. Il était transformé. Toute dignité s'était envolée de lui. Il n'avait plus qu'un but, demander encore de l'argent, demander tout ce que possédait le vieillard sur lui. Des chiffres fantastiques dansaient devant ses yeux. Il crut que d'un seul coup, il allait devenir riche, qu'une existence nouvelle était sur le point de commencer. Devant de si vastes espérances, ce qu'il tenait dans sa main lui sembla insignifiant. Il se fit suppliant. D'un seul coup, le sentiment qui empêche un homme de demander à un autre homme avait disparu en lui. Il était comme l'enfant devant les parents, la femme devant le mari, aux côtés de ce vieillard qu'il connaissait à peine. Puisque M. Simonet ne s'était pas aperçu que son voisin était descendu si bas, pourquoi ne continuerait-il pas à mendier ? Encore, monsieur ! Le père de Raphaël chercha dans toutes ses poches, avec des gestes précipités, et lui tendit tout ce qui lui restait en disant « Je n'ai plus rien sur moi maintenant. » Nicolas prit l'argent en tremblant. Il était dans un état fiévreux. De toutes ses forces, il espérait à présent que Raphaël, par un hasard, se trouvait à l'hôtel lyrique. Enfin, la chance lui sourirait. De reconnaissance, M. Simonet lui signerait un chèque de 20 000 francs. En marchant, Nicolas, qui n'avait jamais prié, priez Dieu de faire que Raphaël fût dans cet hôtel. Alors il serait sauvé. Mais comme il avait subitement deviné devant l'entrée neutre et paisible, l'infirme était inconnu. Nicolas voulut entraîner le vieillard ailleurs, mais celui-ci était exténué. À chaque instant, il s'arrêtait pour s'appuyer contre un arbre ou un mur. « Appelez un taxi, » dit-il. « Je ne peux plus, je ne peux plus. Je vais tomber. » Peu après, les deux hommes montèrent dans une voiture. Nicolas pensait à la bassesse de son attitude et appréhendait de lire sur le visage de M. Simonet une expression de mépris. Bientôt, le taxi s'arrêta devant un immeuble d'apparence bourgeoise. « Vous croyez que mon fils reviendra, que je le reverrai ?»« Mais oui, ces fugues sont fréquentes chez les enfants. »« Mais il ne ressemble pas aux autres enfants. » Il reviendra, je vous l'assure. Nicolas passa toute la matinée qui suivit cette nuit blanche à chercher une chambre à deux lits dont le prix fut peu élevé. Mais les chambres pour deux personnes n'avaient qu'un grand lit de milieu. Finalement, Nicolas trouva ce qu'il désirait dans un hôtel étroit de 7 étages, encastré entre 2 maisons basses et qui avait été nommé Excelsior. La pièce donnait sur la rue. Un canapé, dont les bras étaient articulés, pouvait servir de couchette. Un lit de cuivre, une armoire à glace, une commode dont le dessus de marbre était fendu, 2 chaises de bois blanc la meublaient. Il y avait l'eau courante, mais froide seulement. Pour le déménagement, Nicolas s'adressa à un charbonnier marchand de vin qui possédait une voiture à bras, puis, durant 1 heure, il disparut. Rien ne le gênait autant que de prendre part à un déménagement. De sentir que l'attention des gens se portait sur lui le rendait nerveux. Il avait honte de se trouver sur le trottoir, cependant que les 2 femmes de chambre transportaient les 2 malles et les valises. Après le déjeuner, sa mère s'occupa à ranger ses affaires, à étaler des journaux sur les rayons de l'armoire, dans le tiroir de la table de nuit, à examiner la literie, enfin à animer cette pièce où elle allait vivre et dont les meubles et l'agencement lui étaient hostiles. Nicolas en profita pour se rendre chez M. Simonet. Il voulait lui proposer de faire d'autres recherches, cela dans le but de lui soutirer à un moment propice encore quelque argent. Une bonne l'introduisit dans un salon entouré de fauteuils et au milieu duquel se trouvait un piano à queue entre 2 sortes de lampadaires aux abat-jours étincelants de paillettes dorées. Un lourd silence pesait dans cette vaste pièce. Nicolas n'osait faire un pas. Soudain, il entendit un bruit de porte et tout à coup, M. Simonet s'avança vers lui, les mains tendues. Il avait le visage reposé et semblait rajeuni dans un complet de flanelle grise. « Oh, monsieur, que je suis heureux de vous revoir !» dit-il tout de suite. « Savez-vous qu'il est ici ? Il est rentré cette nuit. Pendant que nous le cherchions, le pauvre petit dormait dans sa chambre comme un enfant. » L'assurance de Nicolas s'envola. Il demanda machinalement « Il est ici ?»« Il est ici, et il dort bien sagement dans son lit. » Il voulut parler, mais il ne savait plus quoi dire. C'était sans lui que M. Simonet avait retrouvé son enfant. Il avait l'impression que la fortune lui échappait et que, de nouveau, il se trouvait dans la même situation qu'avant, mais aggravé du fait que le nouvel hôtelier ne le connaissait point et ne lui ferait sans doute pas de crédit. Pourtant, il s'accrocha. « Peut-être va-t-il me donner quand même quelque chose. Je n'ai qu'à rester. » Il espérait profiter du moment où le père de Raphaël remercierait d'avoir cherché avec lui son fils toute une nuit pour se plaindre sur son sort et lui redemander de l'argent. Mais M. Simonet, tout à son bonheur et pour qui l'appui de Nicolas semblait à présent inutile, ne le remercia pas et, par une sorte de pudeur, ne parla même pas de la nuit tant il s'en voulait de s'être trouvé dehors, cependant que son fils, épuisé de fatigue, reposait tout habillé et sale sur son lit. Nicolas comprit qu'il était un peu cause du retard que le père avait eu à rentrer chez lui puisqu'il l'avait retenu. Devinant que M. Simonet avait hâte d'être seul, il sentit qu'il ne lui restait plus qu'à demander de l'argent sans motif. « Monsieur, laissez-moi encore vous demander un petit service. » Le père de Raphaël s'arrêta de parler. Puis il dit « Mais oui, demandez-moi ce que vous voulez. J'ai ma tête à moi maintenant. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi en cette nuit douloureuse. Vous pourriez peut-être m'aider encore. » « Je suis avec ma mère dans une situation désespérée. »« Mais certainement, c'est la moindre des choses. Si je me souviens bien, il me semble que je vous ai déjà donné quelque chose cette nuit. La même somme vous va ?»« Oui, oui, » balbutia Nicolas, qui, jusqu'à présent, avait voulu croire que M. Simonet ne s'était aperçu de rien. Le vieillard sortit quelques instants, puis revint avec un chèque de 1 000 francs. « Tenez, je n'oublierai jamais votre sollicitude. Quand on souffre comme j'ai souffert cette nuit, c'est un véritable réconfort de trouver un étranger qui, durant quelques heures, vous apporte un appui comme celui que vous m'avez apporté. » Il reconduisit Nicolas jusqu'à la porte. Avant de la fermer, il dit avec un sourire « Merci encore !»